Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour, bienvenue à la suite de ce cours, durant lequel nous allons continuer à explorer évidemment les relations métaboliques neurones-glies, mais cette fois-ci accentuer la direction qu'on avait entamée il y a 2 semaines lors du dernier cours, et qui était celle d'explorer la possibilité de ce que nous avons appelé la plasticité métabolique. Donc l'idée étant de voir si finalement le couplage métabolique entre astrocytes et neurones est sujet à des mécanismes de plasticité en parallèle ou en anticipation ou après, à la suite de phénomènes qui seraient liés à la plasticité synaptique. Et en fait, c'est surtout ce que nous allons développer aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai montré un exemple de plasticité métabolique qui était relié au cycle veille-sommeil et en particulier à la mobilisation de glycogène. Je reprendrai très brièvement ce point juste pour qu'on se remette dans le bain. Vous vous souvenez, le glycogène est essentiellement localisé dans les astrocytes. Il peut être mobilisé par une série de neurotransmetteurs assez restreints, les monoamines, en particulier la noradrénaline, via des actions alpha et bêta. Et certains peptides, notamment le VIP, le vasoactive intestinal peptide, et quelques-uns de ses analogues, et puis l'adénosine et l'ATP. C'est essentiellement ces agents peuvent mobiliser le glycogène. Donc l'idée, on avait discuté de cette idée, que cette glycogénolyse astrocytaire pouvait en fait servir à mettre à disposition, mobiliser des substrats énergétiques lors de l'activation neuronale, et on avait mis en relation notamment la disposition des neurones noradrénergiques par rapport aux neurones locaux, à action locale, les neurones à VIP. Et puis, je vous avais fait part d'une observation qui nous avait surpris, un peu le fruit de l'erreur, qui était celle que non seulement il y avait ces effets à court terme, médiés par l'activation essentiellement de l'AMP cyclique et de cascades de phosphorylation qui active des enzymes déjà exprimées dans la cellule, qui modulent leur action et qui stimulent la glycogénolyse. Mais on avait également mis en évidence des effets à long terme qui s'expriment sur plusieurs heures, que l'on avait essentiellement abordé d'un point de vue descriptif, mais pour lesquels on avait montré l'implication des mécanismes de transcription, également identifier les facteurs transcriptionnels impliqués et finalement identifier en tout cas un gène cible de ces facteurs transcriptionnels activés par cette cascade CAMP dépendante qui était cette fameuse protéine PTG, Protein Targeting to Glycogen, qui est une protéine qui entre autres augmente l'activité de la glycogène synthase et stimule massivement la resynthèse de glycogène après plusieurs heures. Et puis, nous avions mis ça en relation, cette observation, pour des raisons que j'avais évoquées la dernière fois, je ne vais pas les reprendre, mais vous vous souvenez peut-être que l'on avait montré qu'en fait, PTG était, d'abord avait un rythme circadien avec une augmentation en fin de nuit pour l'animal, donc d'activité, et une diminution en fin de lumière, donc de repos pour le rongeur, et puis une déprivation de sommeil de 6 heures, en fait, augmenter de manière tout à fait significative l'expression de PTG. Donc, si on prolongeait la veille de plusieurs heures par cette déprivation, eh bien, l'induction de PTG était encore plus forte. Et ce qui était intéressant, c'était que non seulement il y avait une augmentation de l'expression de ce ARN messager, mais que ceci avait une conséquence fonctionnelle dans la mesure où l'activité de l'enzyme, de la glycogène synthase, préparée à partir de cortex de souris déprivées de sommeil, était fortement induite, ce à quoi on s'attendrait si PTG est induit, que c'était un phénomène réversible, dans la mesure où si on laissait l'animal récupérer 3 heures, évidemment d'autres animaux, on retrouvait des niveaux d'activité de la glycogène synthase qui étaient, enfin pas des niveaux, des activités, des niveaux d'activité qui étaient comparables à ceux d'animaux qui n'auraient pas été perturbés pendant 6 heures, plus ensuite récupérés pendant 3 heures. Donc tout ça nous avait montré justement qu'il y a une plasticité circadienne, en tout cas dans le métabolisme du glycogène, avec des molécules que nous avons identifiées. Et ceci nous avait amené à postuler, c'est quelque chose que nous poursuivons activement dans le laboratoire, à l'idée selon laquelle, en fait, lorsque, en fin de d'activité, ce PTG est induit, et il va mettre, si on passait l'expression, les astrocytes dans un état ou dans une fonctionnalité qui va favoriser plutôt le stockage de glycogène, de glucose sous forme de glycogène, plutôt que l'utilisation de glucose dans la glycolyse et puis éventuellement, comme je vous ai montré, la production de lactate, etc. Donc l'idée est que cette plasticité métabolique astrocytaire qui concerne le glycogène pourrait jouer un rôle dans le cycle veille-sommeil. Et en fait, nous sommes, comme je vous l'ai dit la dernière fois, activement en train d'explorer des manipulations pharmacologiques des enzymes du glycogène pour évaluer leur effet sur le cycle veille-sommeil. Voilà pour ce premier exemple de plasticité métabolique, mais j'aimerais maintenant revenir au point initialement évoqué, à savoir celui de en quoi, en fait, des mécanismes de plasticité métabolique, des adaptations, des modifications du phénotype astrocytaire, phénotype métabolique, pourraient coexister, voire être nécessaire, indispensable à l'expression de la plasticité synaptique, avec, dont je ne vais pas décrire ici les phénomènes, ça prendrait un cours entier, un cours de 9 heures, qui, c'est-à-dire des modifications pré-post-synaptiques. Enfin, c'est un phénomène qui est étudié de manière très active en neurosciences, comme vous le savez. Nous nous sommes maintenant intéressés, nous, à voir que se passe-t-il au niveau de l'astrocyte lorsqu'il y a cette plasticité. Et je vous donnerai quelques exemples initiaux issus de notre laboratoire et aussi un ou deux exemples d'autres laboratoires. Et je crois que c'est une voie qui va certainement se développer. Nous verrons donc en premier lieu un protocole expérimental dans lequel nous savons, il est bien connu qu'il y a une plasticité synaptique, c'est le paradigme d'apprentissage spatial. Et ce que nous avons essayé de voir, c'est s'il y avait des modifications déjà au niveau, je ne vais pas dire macroscopique, mais enfin régional, notamment au niveau de l'hippocampe, de la consommation de glucose à divers moments de la mise en place de cette plasticité. Et je passerai ensuite à des observations récentes du laboratoire qui concernent une sorte de plasticité, on peut l'appeler aussi, mais cette fois-ci dans un contexte neuropathologique. Alors, plasticité synaptique et apprentissage spatial, en d'autres termes, est-ce que les astrocytes sont sujets à des adaptations métaboliques en parallèle à la plasticité synaptique? Voilà la question, formulée d'une autre manière. Y a-t-il une trace métabolique comme il y a une trace synaptique? Alors, le paradigme expérimental que nous avons utilisé est celui d'un labyrinthe à 8 bras, c'est-à-dire que vous avez ici 6 tunnels, si vous voulez, transparents. Trois de ces voies sont appâtées par de la nourriture et l'animal est placé au centre. Il peut utiliser des repères spatiaux qui se trouvent dans la pièce pour apprendre où se trouve la nourriture. Et on répète les séances au cours des jours. Et il s'agit là de souris. Et l'animal est plutôt, ils sont plutôt bons, ils apprennent assez rapidement et à partir du sixième, septième jour, ils ne perdent pas de temps, ils vont directement dans les bras appâtés. Donc on peut suivre, si vous voulez, au cours du temps, le développement de l'apprentissage et on va en déduire que cet apprentissage est lié à des mécanismes de plasticité synaptique. Je pense que la preuve n'est plus à faire dans ce domaine. Alors voilà le décours temporel de la performance de ces souris pour aller trouver la nourriture dans les bras appâtés. Au début, c'est à peu près du hasard. Et puis, petit à petit, vous voyez que les souris sont bonnes, comme je vous ai dit, 5-6e jour. Elles vont presque, avec très peu d'erreurs, dans les bras très rapidement. On peut mesurer plein de paramètres, le temps qu'elles mettent. Enfin, disons qu'on a des courbes, quel que soit le paramètre d'apprentissage que l'on prenne en compte, on voit qu'il y a évidemment un apprentissage qui se met en place avec ce décours temporel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les laisser ensuite dans leur cage tranquillement pendant 5 jours, sans entraînement, et on les remet dans le labyrinthe, et vous voyez que en fait, elles sont tout aussi compétentes après 5 jours de sans exercice. Donc il y a une trace, certainement, et on peut la rappeler, la réactiver, et de manière à ce que la performance, vous voyez, est tout à fait bonne. Alors, ce que nous avons fait pour chercher la trace métabolique, et c'est un processus qui est en cours, nous nous sommes dit, est-ce que, lors de l'apprentissage, est-ce qu'il serait possible de mettre en évidence des consommations de glucose révélées par la technique du 2-déoxyglucose, de la radiotographie au 2-déoxyglucose. Donc, on injecte l'animal avec du 2-déoxyglucose radioactif et ce glucose va être capté de manière additionnelle par rapport à la ligne de base dans les régions qui seraient particulièrement mobilisées. En fait, c'est un protocole qui a déjà été utilisé, notamment ici en France, à Bordeaux, par exemple, par Bontempi et d'autres. C'est une manière, si vous voulez, d'avoir une trace métabolique au cours de l'apprentissage. Et vous avez ici des coupes frontales qui passent au niveau de l'hippocampe. Au premier jour d'apprentissage, au 9e jour, et justement, à ce temps de 5 jours après le dernier apprentissage et pendant lequel on laisse l'animal tranquille pendant ces 5 jours. Alors là, nous avons des coupes plutôt antérieures, au niveau de l'hippocampe antérieure, et là, plutôt au niveau la partie postérieure. Alors, je crois que c'est assez évident, ça saute aux yeux, en prenant en compte, bien sûr, que le signal rouge correspond au vu de la référence à une activité, une accumulation importante de 2-déoxyglucose, on voit qu'il y a des modifications en fait de l'accumulation de glucose selon les jours d'apprentissage. Au début, vous avez ce type de pattern. Après 9 jours, un autre avec des mobilisations plus corticales. Ici au niveau de l'hippocampe, au niveau postérieur aussi, des patterns différents. Vous voyez par exemple ici de nouveau des mobilisations corticales alors qu'ils ne sont pas présentes au premier jour. Et peut-être le point, juste en passant, là je vous donne comme ça un survol qualitatif. Ce que nous avons fait depuis, c'est de développer avec des collègues à l'école polytechnique un programme qui permet de reconstituer de manière non biaisée tout le cerveau, essentiellement les coupes sériées de cerveau, et d'avoir un cerveau tridimensionnel pour reconstituer des images qui ressembleraient entre guillemets à une TEP, mais chez la souris, à partir de coupes coronales. Et on observe effectivement d'autres régions qui sont, enfin, vraiment des patterns différents selon que l'on se trouve en début d'apprentissage ou en fin d'apprentissage, ce qui en soi est intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous voyez que là, il y a des différences assez marquées entre le 9e jour d'apprentissage et 5 jours plus tard. Comme vous l'avez vu sur la diapositive précédente, la performance est absolument identique. Donc une même performance cognitive, on va dire, mais avec des activations dans différentes régions. Alors, la question reste ouverte encore, je crois qu'il faut poser, il faut la poser, c'est-à-dire qu'il y en a deux en fait. Est-ce qu'il s'agit d'adaptations métaboliques accompagnent des adaptations synaptiques liées à l'apprentissage, ou simplement s'agit-il du fait que, à différents temps, différentes régions sont mobilisées. Mais ce qui serait quand même moins intéressant, mais je pense que la première hypothèse demeure valable parce qu'on sait que dans ces trois temps, il y a des corrélats comportementaux très clairs. Ici, l'animal n'est pas très bon, enfin, il va au hasard. Là, il est très performant. Et là, il est toujours très performant, mais cette fois-ci, il y a des régions qui sont mobilisées de manière différente. Alors, pour aller plus loin dans cette analyse, ce que nous avons fait, et je n'ai pas encore de résultats à montrer, c'est surtout pour vous montrer la démarche que j'expose ceci, c'est qu'en fait, nous utilisons ce mappage, si vous voulez, ce mappage métabolique, pour aller identifier des zones qui clairement sont impliquées à un moment donné de l'apprentissage, avec l'hypothèse qu'il s'y est passé à ce niveau-là, surtout après 9 jours et après 5 jours de rétention, des phénomènes de plasticité synaptique et qui nous sont peut-être indiqués par ces modifications métaboliques. Et ensuite, donc par dissection laser de ces micro-régions, nous avons mis au point ce qu'on appelle un DNA chip, donc un panel de sondes qui nous permettra et ces sondes ne sont pas prises au hasard, nous avons pris essentiellement des sondes qui correspondent aux différentes étapes de couplage neurométabolique que nous avons étudiées, les transporteurs au glutamate, la sous-unité alpha 2 de la NAKTPase, les transporteurs au lactate, etc. etc. Et nous allons voir s'il y a des modifications dans l'expression, dans les niveaux d'expression de gènes dans ces zones, entre guillemets, on va dire chaudes métaboliquement, qui nous montreraient éventuellement qu'il y a des adaptations métaboliques en parallèle aux mécanismes de plasticité synaptique. Et en fait, nous allons étendre, et nous sommes déjà en train d'étendre, ce type d'analyse également au niveau du cycle veille-sommeil, et notamment pour les gènes impliqués dans le métabolisme du glycogène, vu que pour l'instant, on en a ciblé un seul. Alors, voilà pour ce qui était de nos travaux. Je voulais juste vous montrer un autre exemple de travaux relativement récents de Gibbs et Hertz chez le poussin. Ils utilisent un paradigme d'apprentissage, en fait, de avoidance, donc de... comment est-ce qu'on appelle de... Hein ? Évitement, voilà, pardon, merci. D'évitement, ce sont des petits grains qui sont recouverts d'une substance amère qu'ils peuvent en fait mettre à différentes concentrations et les animaux apprennent relativement bien lorsqu'il y a 20% de cette substance et apprennent très bien en une fois lorsqu'il y a 100% de cette substance. Et ce qu'ils ont montré en fait, c'est que... si l'on inhibe la mobilisation de glycogène avec cette substance, la DAB, une substance qui inhibe la glycogène phosphorylase, donc l'enzyme qui va permettre de mobiliser les unités glycosyles à partir du glycogène, eh bien la performance cognitive très simple, cet apprentissage très simple, cet évitement, cet apprentissage d'évitement est très... est significativement diminuer. Donc, en quelque sorte, ces expériences, et là, je vous en montre juste une ou deux, mais c'est un corpus assez important de travaux avec différentes subtilités, peut-être parfois même excessives, mais enfin, peu importe. Le message fondamental de ces travaux de Gibbs et Hertz sur un modèle, bien sûr, simple, mais tout de même, c'est un modèle d'apprentissage, montre que si on inhibe la mobilisation de glycogène, on perturbe cet apprentissage d'évitement. Et ils ont également, par exemple, je vous ai dit, là, ils ont étudié de manière assez fine cet apprentissage, on voit que, en fait, selon le temps auquel on injecte cette substance qui inhibe la mobilisation de glycogène, l'effet est là ou absent. Et notamment, c'est surtout dans les temps plus longs, c'est-à-dire 20 minutes après le début des séances, que l'effet se fait marquer, est le plus marqué. Donc c'est peut-être plutôt dans des phases de consolidation, en tout cas précoces. Et puis une autre expérience intéressante que je vous montre, toujours dans ce modèle très simple, je vous avais parlé de l'acétate lorsque nous avions exploré les voies métaboliques astrocytes et neuronales, et en particulier celles qui étaient spécifiques à l'astrocyte. Vous vous souvenez peut-être que l'acétate est sélectivement capté par les astrocytes. Je vous avais montré les différents mécanismes de transport. En fait, il est pratiquement absent, ce mécanisme de transport, dans les neurones. Et par contre, il est présent dans les astrocytes. Et en fait, l'acétate marqué au C13, là aussi, je vous ai montré quelques expériences, peut être utilisé, commence à être utilisé in vivo, même chez l'homme, pour en fait tester le métabolisme, essentiellement le métabolisme oxydatif, parce que l'acétate va rentrer dans le cycle de Krebs et ensuite fournir les substrats pour la phosphorylation oxydative. C'est une manière de tester l'activité oxydative astrocytaire. En fait, une sonde, presque, on peut dire, sélective pour les astrocytes, une sonde métabolique. D'ailleurs, dans ce travail, il rapporte, de nouveau, Gibbs et Hertz rapportent ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la capture d'acétate est beaucoup plus importante dans les astrocytes que dans les neurones. Alors, ce qu'il montre, c'est lorsque, en fait, ils soumettent ces animaux à cet entraînement d'évitement simple, modéré, c'est-à-dire avec 20% de cette substance aversive, ils peuvent potentialiser, en fait, l'apprentissage en injectant de l'acétate. Et voilà, ça c'est une autre représentation de ces résultats, ceci cette fois-ci à 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il bloque la glycolyse, donc l'utilisation de glucose avec des doses importantes de 2-déoxyglucose, ils perdent cet apprentissage, ce qui n'est pas surprenant, mais en remplaçant avec de l'acétate, ils rétablissent. Donc, si vous voulez, il y a là un événement métabolique qui est spécifique pour l'astrocyte, vu que ce qui est utilisé, c'est l'acétate, et qui est en relation à un phénomène d'apprentissage. En fait, ce que je suis en train de vous dire et que je vais décliner tout au long de cette heure par des flashs aussi en développant quelques points, c'est d'attirer l'attention, votre attention, sur le fait que des mécanismes de plasticité métabolique, mais on verra aussi structurels, ce qui était peut-être déjà connu, sont mis en jeu lors de mécanismes de plasticité synaptique qui se manifestent ou qui sont à la base des processus d'apprentissage. Alors, je conviens tout à fait qu'il s'agit d'apprentissage simple, de conditionnement aversif chez le poussin, comme cela, mais en fait, c'est un organisme vivant avec un cerveau, avec des astrocytes et des neurones, et on agit quand même sélectivement sur l'un ou l'autre, et on peut mettre en évidence, si vous voulez, en agissant sur le glycogène, qui est strictement astrocytaire, et en utilisant l'acétate comme substrat, on voit qu'en perturbant ou en modulant le métabolisme de ces deux substrats énergétiques, on a des effets sur le comportement. Voilà. C'est finalement le message important. je passe maintenant à une série de résultats plutôt récents du laboratoire, en partie non publiés, qui mettent en évidence l'existence d'un changement, on va appeler ça aussi une plasticité métabolique, si vous voulez, ou autrement dit, un changement dans le phénotype métabolique des astrocytes dans des conditions qui miment un environnement pathologique. Là, on revient pendant un moment, cette fois-ci, in vitro. D'une manière générale, je vous l'ai dit, une stratégie qui est utilisée, en tout cas que nous utilisons, c'est de mettre en évidence des mécanismes d'abord dans des conditions in vitro et ensuite aller les tester dans des modèles in vivo, soit par des manipulations pharmacologiques, soit en utilisant des animaux transgéniques. Alors, comme vous vous souvenez certainement, on a passé toute une heure là-dessus, pour rappeler qu'il y a bien sûr, quand on parle d'énergie et d'énergétique, de neuroénergétique et d'énergétique cellulaire, bien sûr, le carburant principal, celui en tout cas auquel on pense d'abord, est bien sûr l'ATP, produit soit par la glycolyse, soit au niveau de la phosphorylation oxydative. Mais vous vous souvenez aussi, on a passé pas mal de temps pour explorer une autre forme d'énergie cellulaire qui est en fait le potentiel redox qui est essentiellement dont un indice est le métabolisme du glutathion avec cette subtilité, vous vous souvenez du fait que l'astrocyte en fait synthétise le glutathion parce qu'il peut utiliser la cystine. Et ensuite, ce glutathion est libéré dans l'espace extracellulaire, clivé par cette enzyme en dipeptide. Et ensuite, cette cystéine glycine sert de substrat pour resynthétiser du glutathion neuronal. Ça, c'est un des éléments de ce potentiel redox. L'autre étant, bien sûr, le potentiel redox lui-même, c'est-à-dire la production de NADPH pour régénérer ce glutathion réduit. Cet NADPH étant essentiellement produit par le shunt des pentoses, la voie des pentoses phosphates. Donc, juste pour rappeler que lorsqu'on parle d'énergétique cellulaire, on compte deux carburants, si on peut dire, c'est-à-dire l'ATP et le potentiel redox. Alors, ce que nous avons fait, c'est de soumettre des astrocytes à un milieu pro-inflammatoire, et on verra ensuite, on a même exploré l'effet de peptide bêta-amyloïde, dans l'idée de reconstituer in vitro un environnement qui ressemblerait à ce que des astrocytes qui se trouveraient dans un cerveau dans lequel des processus neurodégénératifs comme ceux présents dans la maladie d'Alzheimer seraient actifs. Donc un milieu pro-inflammatoire et un milieu avec de la bêta-amyloïde. Et puis ce que nous nous sommes dit, c'est est-ce que ce milieu va changer le phénotype métabolique de l'astrocyte ? Et nous avons alors très systématiquement exploré ces différentes voies, c'est-à-dire la glycolyse, le stockage de glycogène, la voie des pentoses phosphates, la phosphorylation, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative et la libération de lactate, ainsi que la production de espèces réactives du glycogène, des ROS, Reactive Oxygen Species, qui, comme vous le savez, sont entre autres produites par l'activité de la phosphorylation oxydative. Alors là, je passe très rapidement sur quelques résultats. Ce que l'on observe d'emblée, donc il s'agit d'expositions chroniques, c'est-à-dire pour 24 ou 48 heures. Ce ne sont pas des effets à court terme. En fait, ce n'est pas des effets aigus. Aucune de ces cytokines n'a d'effet aigu sur le métabolisme astrocytaire. Ce que l'on voit, c'est que chacune de ces cytokines, donc pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1-bêta ou le TNF-alpha, a un petit effet de stimulation de la consommation basale de glucose, mais qu'ensemble, elles ont une synergie tout à fait remarquable, et tout ça est même potentialisé par le peptide bêta-amyloïde. On a utilisé en fait une forme courte qui mime les effets. On a aussi utilisé, comme vous le verrez plus tard, une forme complète, la forme pathologique 1,42. Donc, et tous ces effets qui se manifestent après plusieurs heures sont dépendants de la synthèse de protéines, donc de l'induction de gènes. Donc, en quelque sorte, un environnement pro-inflammatoire va faire en sorte que l'astrocyte a un phénotype métabolique qui lui fait capter plus de glucose, d'utiliser plus de glucose. Autre observation de ces voies métaboliques, on voit qu'en fait, il y a une très forte stimulation de la voie des pentoses phosphates qui nous met sur la piste, enfin qui aura comme conséquence tout simplement une importante synthèse de NADPH, donc de cet équivalent réducteur si fondamental pour la, entre autres, pour la régénération de glutathion réduit, qui lui-même est fondamental pour la prise en charge des radicaux libres. En parallèle, et peut-être relié à ça, et nous avons de bonnes raisons de croire, c'est qu'il y a production de radicaux libres, par exemple sous forme d'anion superoxyde, en présence de ces cytokines et en plus en présence de ce peptide bêta-amyloïde. Alors là, je vous rappelle simplement la voie. Cet anion superoxyde est pris en charge par la SOD, la superoxyde dismutase, qui va permettre la formation de hydrogène peroxyde, H2O2, et qui est en fait pris en charge justement par le glutathion réduit qui s'oxyde et qui est régénéré en présence de NADPH, le glutathion réduit. Donc on voit que ces choses sont liées. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une production accrue de radicaux libres et en même temps, et de manière corrélée vraisemblablement, une formation accrue d'équivalents réducteurs sous forme de NADPH par la stimulation du shunt des pentoses, de la voie des pentoses phosphates. Ce que l'on met en évidence, c'est qu'en fait, cette formation de radicaux libres, en particulier non seulement de l'anion peroxyde, mais de H2O2, se fait sous l'action d'une enzyme membranaire qui est la NADPH oxydase, parce que vous voyez que cette formation de H2O2, ici induite par les cytokines, est fortement bloquée par cette molécule qui inhibe l'activité de la NADPH oxydase. Donc, le mécanisme que l'on peut concevoir, c'est qu'en fait, les cytokines activent cette enzyme qui va contribuer à la formation de radicaux libres. Et en fait, il s'agit de ces cytokines au niveau périphérique, au niveau des macrophages, induisent justement cette formation de radicaux libres pour éliminer les bactéries, pour contribuer à l'action bactéricide des macrophages. Mais il se trouve qu'au niveau astrocytaire, évidemment, c'est une arme à double tranchant, si je puis dire, parce que ce n'est pas idéal de former des radicaux libres dans un cerveau. Enfin, dernière caractérisation de cette stimulation aussi bien de la production de radicaux libres que de la réponse, de la défense, c'est-à-dire de glutathion, comme on le verra maintenant, et de NADPH, comme je l'ai montré il y a un instant, justement, ces cytokines augmentent la production de NADH, les niveaux de glutathion extracellulaire, de manière très importante. Et donc, il s'agit d'une sorte de changement coordonné que l'environnement pro-inflammatoire va générer au niveau des astrocytes, de manière dépendante de la transcription, de la synthèse de protéines, donc quelque chose qui implique l'induction de nouveaux gènes, des processus transcriptionnels. Alors, ce que l'on peut résumer, est indiqué ici. Les cytokines pro-inflammatoires, tous leurs effets sont potentialisés par la présence de bêta-amyloïdes. En fait, que font-ils? Ils augmentent l'utilisation de glucose par l'astrocyte. Ils augmentent de manière importante la voie du shunt des pentoses qui aboutit à une production de NADPH. Ils augmentent également l'activité oxydative de l'astrocyte. Ils diminuent, je ne voulais pas montrer, mais je vous le montre ici sous forme de résumé, ils diminuent la concentration en glycogène et la production de lactate. En d'autres termes, un astrocyte qui baigne, qui est exposé à des cytokines, va être moins coopératif, si vous voulez, pour la fourniture, pour le support énergétique aux neurones. Si vous voulez, il est moins coopératif, plus égoïste. Et il y a, de manière en parallèle à tout ça, l'induction de la production de radicaux libres, on a vu, hydrogène peroxyde, H2O2, mais en même temps, des mécanismes qui permettent leur neutralisation. Donc, l'astrocyte exposé à des cytokines pro-inflammatoires, donc un astrocyte qui se trouve dans un cerveau, on pourrait en postuler, c'est ce qu'on va examiner maintenant, et qui se trouve dans un environnement pro-inflammatoire, a un autre phénotype métabolique. Il y a donc là aussi une forme de plasticité métabolique qui rend l'astrocyte moins coopératif. Alors, on a démarré toute une série d'expériences pour voir si, en fait, il y a une conséquence fonctionnelle. Est-ce que si un astrocyte a adopté, si vous voulez, ce phénotype moins coopératif, est-ce que cela va avoir une conséquence néfaste sur la survie neuronale? Et en fait, on a mis au point, adapté un modèle de co-culture où on peut séparer, avoir sur des supports différents, mais baignant dans le même milieu, des neurones et des astrocytes. Et on peut examiner l'effet protecteur ou non d'astrocytes contrôle par rapport à des astrocytes dont le phénotype métabolique a été modifié par cette exposition aux cytokines pro-inflammatoires. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ces astrocytes qui ont été, qui coexistent avec des astrocytes qui ont été traités par les cytokines pro-inflammatoires, résistent moins bien à une exposition à des fortes concentrations, des concentrations excitotoxiques de glutamate. Donc, en quelque sorte, on commence à mettre au point étape par étape, à clarifier un mécanisme qui voudrait que des astrocytes dont le phénotype métabolique a été modifié par la présence de cytokines pro-inflammatoires, ils sont moins aptes à protéger les neurones, à fournir la neuroprotection, soit, et là c'est encore à déterminer, par rapport à la fourniture de substrats énergétiques, notamment de lactate, soit par, comme je vous l'ai montré lors de d'autres cours, la fourniture de équivalents réducteurs sous forme de glutathion notamment, et la capacité réductrice dont les neurones ont très fortement besoin vu leur activité oxydative importante. Bien. J'aimerais maintenant aborder un point peut-être accessoire par rapport à ça, mais qui pointe à nouveau, c'est un peu petit à petit, on va s'approcher de la partie évidemment finale de cette série de cours, et dans l'intitulé, vous vous souvenez, il y avait neuroénergétique, cellules gliales et maladies neuropsychiatriques. Alors petit à petit, on s'approche maintenant en discutant ces aspects neuropathologiques de cette question du rôle potentiel que pourraient jouer les cellules gliales et les astrocytes en particulier dans certaines formes, dans certaines pathologies du système nerveux. Alors vous avez ici des travaux de la littérature ici des travaux in vitro, ici une coupe histopathologique, dont le but est simplement de montrer que les astrocytes ont la capacité de phagocyter, d'incorporer le peptide bêta-amyloïde. Et c'est probablement une autre fonction protectrice de l'astrocyte qui se manifeste ainsi. Ce sont, comme je vous l'ai dit, des expériences in vitro, ce sont des cultures organotypiques d'hippocampe préparées à partir de souris qui surexpriment le peptide bêta-amyloïde. Et lorsque on place au-dessus de cette coupe des astrocytes que l'on a isolés, eh bien, vous voyez qu'il y a une diminution importante de ces dépôts amyloïdes. Et là, on voit une coupe histopathologique où on voit une colocalisation du peptide bêta-amyloïde à l'intérieur d'astrocytes. Donc, le message, c'est que les astrocytes ont une capacité d'incorporer de la bêta-amyloïde, ce qui pourrait indiquer justement un rôle de protection par rapport à ce peptide pour lequel donc la forme pathologique 1,42 a été largement démontrée comme étant liée et peut-être causalement liée à la maladie d'Alzheimer. Et beaucoup d'études se font actuellement pour essayer de déterminer quelle est la forme d'agrégation de ce peptide qui est réellement pathogène. Il semble que le degré d'agrégation, est-ce que ce sont des protofibrilles ou des fibrilles ou des amas de fibrilles qui sont réellement pathologiques, c'est un domaine de recherche très active, mais disons, je crois qu'on peut le dire, bien que c'est toujours en discussion, certainement il y a un lien entre la neurodégénérescence dans la maladie d'Alzheimer et l'accumulation, ou en tout cas la présence de ce peptide A42 sous la forme macromoléculaire à déterminer quelle est vraiment la forme pathologique. Il semblerait que ce soit plutôt des protofibrilles. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'étudier un peu plus loin ce mécanisme, parce que finalement, ce que nous avions montré, enfin, on y arrivait parce qu'on s'intéresse au métabolisme, et qu'est-ce qu'on avait vu ? Je vous l'ai montré, en fait, indirectement, et je l'ai mentionné surtout, c'est que le peptide 25-35, et on verra plus tard aussi la forme pathologique, 1,42, ont des effets de type de celui des cytokines. Je vous ai illustré celui des cytokines, je vous ai dit que la bêta-amyloïde augmentait celui des cytokines, mais le bêta-amyloïde lui-même a des effets analogues. Donc, quelque part, l'exposition d'astrocytes à de la bêta-amyloïde pathologique va modifier le phénotype métabolique de l'astrocyte. Alors, on s'est intéressé, et on s'intéresse encore maintenant, à essayer de comprendre par quel mécanisme. Alors, la première chose que l'on a vue, c'est qu'on a pu reproduire, il s'agit ici de données en microscopie confocale, on peut voir que les astrocytes de souris peuvent incorporer de la bêta-amyloïde 1,42 humaine, la 1,42 étant la forme pathologique, la forme physiologique, entre guillemets, étant la 1,40. Donc, il y a en tout cas, les astrocytes qui sont exposés à la bêta-amyloïde vont l'incorporer. Et ceci... D'ailleurs, en fait, ce qui nous avait mis sur la piste, c'est assez amusant, c'est que, en fait, on avait remarqué que les astrocytes qui étaient exposés à la bêta-amyloïde, en fait, avaient un contenu en protéines beaucoup plus élevé. Voilà, c'est indiqué ici. Et c'est là où on s'est dit, mais peut-être qu'ils l'accumulent. Enfin, c'est là où on est parti sur cette piste, et on s'est dit peut-être que cette accumulation de bêta-amyloïde est le signal pour modifier le phénotype métabolique de l'astrocyte. Mais par quel mécanisme ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y avait quelques données dans la littérature, et nous les avons confirmées, je vous le montrerai dans un instant. Un des mécanismes d'incorporation de la bêta-amyloïde, de différentes molécules de ligands, pour ce type de récepteur qu'on appelle récepteur scavenger, le récepteur pour différents ligands, y compris la bêta-amyloïde, ce sont ces récepteurs scavenger qui en fait vont en quelque sorte, si vous me passez l'expression, nettoyer tout ce qui est dans l'environnement astrocytaire qui ne devrait pas y être. Et d'ailleurs, pas que astrocytaire, mais de différents types cellulaires. Et il y a par exemple les LDL oxydés qui sont captés par ces récepteurs, des polysaccharides anioniques, des polynucléotides, divers pathogènes, et justement l'amyloïde fibrillaire. Alors, la question est la suivante. Ces récepteurs, en fait, sont internalisés. Le complexe ligand-récepteur est internalisé et ensuite traité par le protéasome, donc la machinerie intracellulaire qui permet de prendre en charge les protéines qui sont captées par les cellules. Mais également, il va activer ces récepteurs peuvent aussi activer des voies de signalisation intracellulaire et en particulier la voie JNK kinase. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus particulièrement. Ce que je voulais simplement vous montrer ici, c'est que, en fait, nous avons pu déterminer quelle est la forme du bêta-amyloïde qui est requise pour déclencher la réponse métabolique. Alors, vous avez ici de la bêta-amyloïde 2535, ça, c'est un essai pour voir le degré d'agrégation. On voit que, cette bêta-amyloïde forme des fibrilles. Par contre, si on traite cette bêta-amyloïde avec du DMSO qui empêche l'agrégation, la formation de fibrilles, on n'a aucun signal, ce qui n'est pas étonnant, parce que ce signal thioflavine détecte les agrégats. Mais ce qui est par contre plus intéressant du point de vue fonctionnel, c'est que, un, lorsqu'il n'y a pas d'agrégation de cette bêta-amyloïde sous forme de fibrille, il n'y a pas d'incorporation. Vous voyez que l'incorporation de protéines dans l'astrocyte, il n'y en a pas, contrairement à la bêta-amyloïde 2535 contrôle. Et aussi, l'effet métabolique n'est pas là. Donc, il y a une corrélation entre degré d'agrégation, incorporation et stimulation de la consommation de glucose à long terme, donc modification du phénotype métabolique. Et là, c'est simplement une autre étude qui montre cette fois-ci la 1,42, cette fois-ci de souris, et vous voyez qu'elle s'agrège effectivement, qu'elle est incorporée, mais qu'en fait, elle ne stimule pas la consommation de glucose. Donc ça veut dire que l'agrégation est nécessaire. En fait, ceci est résumé dans le tableau suivant, qui résume le tout. Si on prend l'observation principe, c'est-à-dire que l'amyloïde bêta 2535 s'agrège, c'est le test à la thioflavine, elle est internalisée, le contenu en protéines des astrocytes augmente et le métabolisme du glucose, la consommation de glucose est stimulée. Si on prend le peptide contrôle inversé, 35-25, il n'y a rien de tout ça. Si on prend le bêta-amyloïde 1,42 de souris, il y a formation d'agrégats, mais elle n'est pas internalisée et il n'y a pas d'augmentation de la consommation de glucose. Par contre, la bêta-amyloïde 1,42 humaine reproduit entièrement, qui est la forme pathologique liée à la maladie d'Alzheimer, cette forme va elle va être agrégée, elle va être internalisée et elle va stimuler le métabolisme du glucose. Donc ces résultats suggèrent que l'agrégation, la formation de protofibrilles est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour les effets métaboliques de peptide amyloïde. En fait, le point critique, c'est l'internalisation de la bêta-amyloïde dans l'astrocyte qui va modifier, alors par un mécanisme que nous ne connaissons pas encore, que nous sommes en train d'explorer, va modifier le programme, le phénotype métabolique de l'astrocyte et le rendre comme je vous l'ai montré tout à l'heure, moins coopératif, si vous voulez, que l'astrocyte contrôle. Donc, en résumé, on peut dire qu'il existe effectivement une plasticité métabolique qui commence simplement à être explorée. Elle est relativement claire en ce qui concerne le glycogène et le cycle veille-sommeil. On a quelques pistes du côté de l'apprentissage, de la plasticité synaptique liée à l'apprentissage. En fait, nos travaux sont vraiment très des travaux de base pour caractériser le système. Je vous ai montré des travaux de Gibbs et Hertz qui, eux, pointent sur les astrocytes en utilisant des marqueurs particuliers, spécifiques, le glycogène ou l'acétate. Et puis, on voit que, aussi, ce phénotype métabolique astrocytaire est modifié dans des conditions qui miment des états, des processus neuro-inflammatoires comme les cytokines et le bêta-amyloïde. Et ce que l'on peut déjà dire, c'est que le bêta-amyloïde seul, la forme pathologique dans la maladie d'Alzheimer, clairement, en étant internalisé par l'astrocyte, modifie son profil métabolique. Et nous, comme je vous l'ai dit, on s'approche petit à petit de l'idée que, en tout cas, les astrocytes peuvent contribuer, si ce n'est être absolument la cause, de certains processus pathologiques et notamment neurodégénératifs. Alors, revenons un tout petit peu à la physiologie. Et une autre question en termes de plasticité qui s'est posée depuis longtemps, et en fait, autant ces études métaboliques sont vraiment très récentes, autant ces études plus structurelles entre astrocytes et neurones, lors de la plasticité, sont mieux établis depuis en fait plusieurs décennies, mais l'intérêt revient actuellement aussi grâce au développement technologique. Alors, la question qui se pose là, vous avez ici une image en microscopie électronique que m'a fournie Graham Knott à Lausanne. Vous avez ici en bleu turquoise les processus astrocytaires, ces lamelles astrocytaires qui sont infiltrées dans tout le neuropile et qui en particulier engainent, entourent les contacts synaptiques à différents degrés. Et une question qui s'est posée, pour lesquelles il y avait ça et là dans la littérature des données, en fait il y avait quelques données même très solides au niveau de l'hypothalamus, par le groupe de Dominique Poulain, mais dans d'autres régions du cerveau, la question était de savoir est-ce que cet engainement des astrocytes, de la part des astrocytes, cet engainement des synapses par les processus astrocytaires, est-ce qu'il est relié en quelque sorte au processus de plasticité? Là aussi, est-ce que lorsque des synapses sont modifiées par des processus de plasticité, est-ce que les lamelles astrocytaires, est-ce qu'il y a des modifications structurelles qui les accompagnent? Et ce sont des études, vous pouvez l'imaginer, extrêmement qui prennent beaucoup de temps, où il faut beaucoup de patience, parce qu'essentiellement, ce sont des études en microscopie électronique, et il faut reconstituer en trois dimensions les épines dendritiques et les astrocytes qu'il y a là autour. Donc, la question était de pouvoir trouver des modèles expérimentaux qui permettent d'évaluer ces modifications structurelles de l'engainement astrocytaire. Et vous avez ici, justement, un exemple de cette reconstruction. Vous avez ici en gris un profil postsynaptique, ici en vert le profil présynaptique, et en bleu vous avez cet engainement astrocytaire. Ce sont de nouveau des travaux de Graham Knott qui ont permis d'obtenir ce genre d'image. Alors, une première observation un peu, on va dire, macroscopique, mais tout est relatif parce que ce sont quand même essentiellement des travaux en microscopie électronique. C'est des travaux notamment du laboratoire de William Greenough aux États-Unis, qui est un des précurseurs, qui a le premier montré, il y a déjà une quinzaine d'années, des modifications microstructurelles des processus astrocytaires lors de l'activité. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, un apprentissage moteur, ils ont soumis des rats à des apprentissages moteurs, ils appellent ça des apprentissages acrobatiques. Le rat doit apprendre à garder l'équilibre dans un paradigme comportemental. Donc, c'est vraiment une stimulation qui met en jeu, entre autres, des circuits du cervelet. Eh bien, au niveau du cortex cérébelleux, le volume... c'est des analyses quantitatives de glies par cellule de Purkinje, et augmenté dans ces acrobatic conditions, donc dans ces conditions où l'équilibre et l'apprentissage moteur est fortement mis à contribution. Donc là, il y a un apprentissage moteur qui se traduit par une augmentation assez global, quantitativement, du volume astrocytaire par rapport aux cellules principales du cervelet, les cellules de Purkinje. Et puis, une deuxième série de travaux très, très jolie, justement de Graham Knott, très récent, qui a étudié cette voie dont je vous ai déjà parlé, la voie qui va des vibrisses au baril, dans le cortex somatosensoriel. Et l'intérêt de cette voie, c'est qu'on peut stimuler de manière soutenue pendant plusieurs heures sélectivement une vibrisse et ensuite aller étudier toutes sortes d'éléments et de données au niveau du baril correspondant. Alors, ce que Knott et les autres, et ses collaborateurs ont pu montrer, c'est deux choses. D'abord, deux choses relatives à l'astrocyte, donc deux réponses astrocytaires en réponse à une stimulation soutenue, une stimulation sensorielle soutenue. Alors, la première, c'est l'augmentation de l'expression des deux transporteurs au glutamate glial, GLAST et GLT1. Donc, en mesurant par... donc, voilà la préparation. Ils ont pu récupérer, en particulier dans la couche 4 du cortex somatosensoriel, donc dans la vibrisse correspondante à celle qu'ils ont... au baril correspondant à la vibrisse qu'ils ont stimulée, une augmentation de l'expression de GLAST et de GLT1. Donc, ceci indique qu'en tout cas, une adaptation plastique a eu lieu au niveau de la capacité astrocytaire à recapter le glutamate. Donc, il y a là une adaptation claire après 24 heures de stimulation, plus de GLAST et GLT1 qui sont exprimés. Alors que, le transporteur neuronal EAC1 n'est pas modifié, voire légèrement diminué, mais enfin non significativement. Et puis, ce qu'ils ont regardé, c'est vraiment un travail de bénédictin, si vous me passez l'expression, c'est évaluer l'engainement astrocytaire des profils synaptiques, pré- et post-synaptiques. Et en fait, ils ont d'abord catégorisé les contacts synaptiques en quatre catégories, celles où l'engainement astrocytaire était faible, un peu moins faible, moyen et fort. Donc, ce qui est bleu indique le degré d'engainement astrocytaire de l'épine dendritique. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est une augmentation significative dans cette catégorie, c'est-à-dire les synapses qui étaient déjà bien engainées par les astrocytes le deviennent encore plus suite à la stimulation. Et en fait, en analysant finement ces données de manière quantitative, ils ont en fait mis en évidence une augmentation du périmètre astrocytaire autour du contact pré- et post-synaptique. Donc, en résumé de ces travaux, ce que l'on peut dire, c'est que l'activité synaptique prolongée modifie l'expression de deux protéines clés dans la prise en charge du glutamate libéré par les neurones, GLAST et GLT1, et augmente, en tout cas pour une partie des synapses, la couverture gliale. ça montre bien une plasticité. Il faut juste rester prudent parce que, évidemment, ce paradigme de stimulation, ce n'est pas nécessairement un paradigme d'apprentissage. C'est une activation soutenue, c'est probablement tout ce qu'il y a de moins physiologique. Donc, je pense qu'il faut rester prudent par rapport à l'extrapolation, par rapport à l'apprentissage, mais il est indéniable que ces résultats démontrent, et comme un peu tous ces résultats que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, que cette entité, cette unité neurone-gli est sujette à adaptation, à plasticité, aussi bien du point de vue métabolique que du point de vue structurel. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.